au chapitre 5e et au verset 13e. Chapitre 5 et le verset 13e. Voici ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans un texte important des Écritures puisqu'il s'agit du sermon sur la montagne. Je crois que tout le monde a entendu parler du sermon sur la montagne, un message important de la part de Jésus qu'on a appelé en quelque sorte la charte du royaume de Dieu. Comment on vit quand on vit dans le royaume de Dieu? Tout d'abord, le Seigneur nous dit qu'on est heureux. On est heureux parce qu'on appartient au Seigneur. Heureux même les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On ne va pas développer tout ça, mais on va aller au verset 13. Et voici ce qui nous est dit. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je voudrais retenir avec vous la première déclaration du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Nous allons retenir cela. Et puis, nous allons dans un deuxième passage des Écritures, dans le premier livre des Rois, le deuxième livre des Rois, au chapitre deuxième, et au verset 19, il y dit ceci. Nous sommes à l'époque du prophète Élisée. Et il nous est dit, les gens de la ville dirent à Élisée, nous sommes dans cette ville de Jéricho, le contexte nous l'indique, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent et il alla vers la source des eaux et il y jeta le sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux, il n'en produira plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons nous entretenir sur cette déclaration et puis sur cet enseignement concernant le sel de la terre. Vous savez que dans l'Antiquité et puis à l'époque biblique, bien entendu, le sel était un élément très très important de la vie quotidienne puisque grâce au sel, les aliments pouvaient être conservés empêchant la putréfaction des aliments. Il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de toutes ces choses-là. On connaît également le rôle purificateur du sel. L'Écriture nous parle même dans le livre d'Ézéchiel d'une façon qu'on avait de fortifier et de purifier les enfants qui venaient de naître en les frottant avec du sel. Et puis bien sûr le sel, nous le savons, il relève le goût, il donne de la saveur à ce qui est fade, il relève le goût même avec puissance des aliments. Et le Seigneur nous dit, nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire que dans la vie d'un chrétien, il doit y avoir en réalité tout cela. Des hommes et des femmes qui donnent de la saveur à la parole de Dieu, qui donnent envie de placer leur confiance dans le Seigneur. Et l'Église de Christ a pour but de faire connaître un message extraordinaire au monde qui nous entoure, mais c'est tellement merveilleux que de placer sa foi en Jésus. Alléluia! Amen. Vous savez, quand le Seigneur a commencé son ministère, je fais une introduction, la Bible nous dit que les gens de son temps étaient étonnés de la façon dont il s'adressait à eux parce qu'il enseignait comme ayant autorité. C'est quelque chose qui revient souvent dans l'Écriture. Alors pourquoi cela ? Alors c'est vrai que tout d'abord, et on y reviendra dans un instant, le Seigneur, non seulement il parlait, mais il accomplissait ce qu'il disait. Alléluia ! Donc ça c'est glorieux. mais aussi sa façon de prêcher était tout à fait originale, eh bien, à son époque. Pourquoi cela ? Eh bien, à l'époque de Jésus, les rabbins, les maîtres, les docteurs de la loi, les scribes enseignaient avec une foule de références et de traditions. Nous le voyons notamment dans les évangiles, voyons une foule de traditions. Et en réalité, les rabbins, les docteurs de la loi, eh bien, enseignaient les écritures d'après ce qu'un tel avait dit, ce que tel autre avait dit, le Talmud, etc. Et toutes sortes de traditions. Voilà ce qu'on peut penser de ce texte, voici ce qu'on peut y penser. Et c'est vrai qu'il y avait une connaissance, mais c'était... j'allais dire, une forme de savoir universitaire de ce que tel autre pensait. Mais quand Jésus est venu, cela a complètement changé. Il n'est pas venu pour nous dire, apporter un commentaire supplémentaire des Écritures, mais il est venu pour parler de la Bible et la prendre au sens littéral du mot, en disant, ces choses qui sont écrites, elles sont accomplies en moi et vous pouvez les vivre. Et il l'a prêché avec autorité. Exemple, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 4, il y a le récit de cette prédication que le Seigneur fait dans la synagogue de Nazareth. Et il cite un passage du prophète Ésaïe au chapitre 61, où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, etc. » Et une fois qu'il a achevé cette lecture, il leur dit « Mais... aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le Seigneur n'est pas venu faire un commentaire supplémentaire à ce qui est écrit. Il est venu pour accomplir ce qui avait été annoncé de lui. Alléluia ! Et ça fait toute la différence. Ça donne une saveur extraordinaire à cette parole. Et je voudrais te dire, toi, eh bien, qui est peut-être dans une tristesse, on a chanté la joie du salut. C'est pas une idée, c'est la réalité. Alléluia. Le Seigneur est celui qui peut te rendre heureux, mettre la joie dans ton cœur. Et nous voulons prendre la parole de Dieu au sens littéral du mot. Elle ne nous a pas été donnée pour qu'on en fasse une série d'interprétations, de suggestions. Elle nous a été donnée afin que nous puissions la vivre. Alléluia! Ces promesses, ce ne sont pas des conseils, ce n'est pas de la moralité, ce n'est pas une espèce de prêchi-prêcha. Mais l'Écriture nous dit, l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et nous voulons dire que nous sommes plusieurs ce matin à dire, nous avons placé notre foi dans la parole de Dieu. Nous l'avons pris au mot. Alléluia. Et il a accompli ses promesses à notre égard. Amen. Il a changé nos vies. Amen. Il est celui qui pardonne les péchés. Il a pardonné mes péchés. Alléluia. À la croix du calvaire, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus m'a libéré de mes péchés et je suis heureux. Alléluia. Amen. J'ai l'assurance de la vie éternelle. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est qu'il nous est dit, eh bien que nous sommes également le sel de la terre. Alors, on va voir ensemble la mission du sel. La mission du sel. On va voir, c'est bizarre, hein, bon voilà. On va voir que, ayez du sel en vous-même. Retenez bien, vous êtes des salières. Vous savez ce que c'est des salières ? Ludo, tu sais ce que c'est ? Passe-moi le sel. Voilà, un chrétien, ça doit être une salière. Vous devez avoir du sel en vous-même. On va voir ce que ça veut dire. Et puis, on va voir également eh bien, cette action du sel, le sel en action, et on terminera eh bien, en disant que le sel a un salaire, le salaire du sel. D'ailleurs, vous savez que le mot salaire vient du mot sel. Ça avait tellement de valeur que les récits antiques, pas forcément bibliques, mais disaient qu'on payait même les soldats avec une ration de sel. Et à partir de là, le mot salaire est intervenu. Et il y a un salaire pour celui qui a du sel en lui-même. On va le voir ensemble. Alléluia. Alors la mission du sel, vous avez remarqué dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, le premier miracle du prophète Élisée, eh bien, ça a été de jeter du sel eh bien, à la source des eaux de Jéricho, car celle-ci était mauvaise. Et suite à cela, les eaux ont été purifiées. Et au lieu que le pays soit stérile, eh bien, les eaux sont devenues saines et le pays est devenu fertile. Le ministère du prophète Élisée, qui succède au prophète Élie, eh bien, était un ministère marqué par la puissance de la vie de Dieu. la puissance de la vie de Dieu. Quand Dieu agit, il restaure tout. Nous voyons dans le ministère d'Élisée, eh bien, un enfant qui est ressuscité. On voit des hommes empoisonnés, eh bien, qui ont mis une plante vénéneuse dans leur potage. Élisée intervient et la mort est chassée. On voit qu'il fait une multiplication des pains qui annonce celle de Jésus. On voit, eh bien, toutes sortes de choses. Et ici, nous voyons que là où la mort se trouvait, lui, il amène la vie. Et quand on sait que le mot Élisée signifie l'Éternel est sauveur, on s'aperçoit que dans son nom même et dans son ministère, il y a une annonciation de la personne de Jésus dont le nom signifie l'Éternel sauve. C'est très voisin, Jésus et Élisée, eh bien, en hébreu, les deux sens. Et ici, il se passe quelque chose qui devrait nous toucher parce qu'on est dans le même monde que le monde d'Élisée. Un monde qui, où on pourrait dire à Montpellier, c'est vrai, le séjour est bon. Jéricho, on l'appelle la ville des palmiers. Quand je suis arrivé la première fois à Montpellier, j'étais étonné, j'ai vu des palmiers. Je me suis dit, on est en France ou on est aux Caraïbes? Et c'est beau, Montpellier, Palavas. C'est beau, Palavas. On a des Palavasiens, là. Palavasiennes. Hein, c'est joli, Palavas. Vous n'aimez pas Palavas? Moi, j'aime bien. Cournon, tout ça, c'est joli. On peut dire le séjour est bon. Hein. Il y a des gens qui se battent, hein, pour venir. Vous avez commencé à construire à Montpellier? Voilà. Et même les gens, ils reviennent à Montpellier. Mais c'est extraordinaire. Alléluia. Il faut y rester, Jérémy. Hein. Montpellier, à côté de New York, à côté, hein, c'est... Faut oublier, hein. Faut oublier, hein. C'est ici. Hein. T'as vu le temps qu'il fait à New York, la tempête de neige. Tu vas pas retourner là-bas. Reste ici. Enfin voilà. Alors bon. Et ici, eh bien, voyons que les eaux ont été assainies. Et le mot, c'est un peu triste ça. Le pays est stérile. En réalité, j'ai cherché dans le sens hébreu, le mot peut signifier également le pays avorte. Le pays avorte. C'est-à-dire que on essaye de faire pousser des choses. Ça marche pas. Pourtant, le séjour est bon. Pourtant, c'est agréable à y vivre. Vous trouvez pas que ça ressemble un petit peu à nos vies avant de rencontrer le Seigneur? Peut-être la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tu es en pleine forme. Tu as la santé, tu as la jeunesse, tu as le boulot. Mais tous tes projets, eh ben, ils avortent. Et la Bible dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Les eaux sont mauvaises. Le mot « mauvaise » ici, ça parle de méchanceté, de choses qui sont tombées dans le mal. Nous verrons tout à l'heure que le sel doit aller à la source. La parole de Dieu, elle doit aller dans notre cœur pour le changer. Le problème, il ne vient pas de l'extérieur. Le problème doit être changé à l'intérieur. Le mal, il doit être résolu à l'intérieur. Et c'est là où Élisée intervient. À l'aide d'un plat neuf, du sel qui est dedans, eh bien, j'assainis ces eaux. La source va être changée et au lieu de déverser de la méchanceté, au lieu de déverser des ragots, au lieu de déverser eh bien, des pensées eh bien, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, eh bien, le cœur va être changé. Et je voudrais vous dire ceci, quand l'Écriture nous dit « vous êtes le sel de la terre », cela signifie eh bien, que l'Église de Christ est capable, et un chrétien, un enfant de Dieu, que ce soit dans son travail, dans sa famille, dans son église, il peut avoir une influence positive. Alléluia! On peut changer par la grâce de Dieu le cours des événements parce que Jésus est celui qui est venu pour sauver le monde. Alléluia! Amen! Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un, eh bien, te dire ceci, eh bien, ne baisse pas eh bien, la tête, mais au contraire, relève-la, parce que ton Dieu t'aime et il veut que tu sois le sel de la terre. Il est venu pour changer les circonstances. Nous sommes dans un monde eh bien, qui est pourri par le mal, pourri par le péché. Nous étions dans cette pourriture-là et pourtant le Seigneur eh bien, nous a fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et nous voulons dire merci Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Amen. Et cela, eh bien, est extraordinaire. Et c'est cela, eh bien, la mission du sel, eh bien, en quelque sorte, que nous puissions saisir, mais de tout notre cœur, que le Seigneur a donné, et on est dans cette première année, ce début d'année, je veux dire, un mandat, le mandat de l'Église. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, tout est accompli. Satan est vaincu, le péché est vaincu, la mort est vaincue. Allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Et je bénis le Seigneur de ce qu'un jour on m'ait parlé de Jésus. Alléluia. De ce que cette annonce a changé ma vie tout entière pour me faire passer des ténèbres à la lumière. L'œuvre de Christ qui change les événements et de même le rôle des enfants de Dieu est d'amener eh bien, le sel sur cette terre pour redonner de la saveur et te dire ceci, la parole de Dieu, elle mérite d'être crue, elle mérite d'être reçue. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est cela notre mission. Vous êtes le sel de la terre. Amen, Perico. Tu es le sel de la terre. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de connaissance, d'instruction ou de sagesse humaine. C'est une histoire de relation avec Dieu. C'est une histoire de vie. Alléluia. Je voudrais être tellement comme lui, comme elle. Comment il fait pour avoir cette paix, malgré les circonstances, malgré la guerre, malgré eh bien, toutes ces choses qui se passent. Mais il a quelque chose d'autre. Il a Jésus. Alléluia. Amen. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, nous sommes appelés eh bien, à être des salières. Alors, voilà, parce que l'Écriture nous l'a dit, hein, il l'est dit dans Colossiens au chapitre 4 et au verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a quelque temps de ça, je crois que je vous en avais parlé, j'ai amené ma voiture au contrôle technique, pas loin d'ici, et j'ai vu une dame qui avait un visage un peu triste. Et je me suis dit, après la visite du contrôle technique, même si c'est négatif, je veux quand même lui parler de toi, Seigneur. Bon, la voiture, elle n'était pas en forme, mais bon. Et je lui ai parlé de Jésus. Elle m'a dit, mais vous savez que je suis une miraculée ? J'ai dit non. Ben, mes parents, quand je suis né, quelques jours après, j'ai eu, alors, il me semble que c'est la maladie du sang bleu, et je devais mourir, j'étais bébé. Et on habitait à côté de la rue, à côté du quai du Verdençon. Et ma mère avait l'habitude de passer devant une église évangélique où on entendait des chants. Et elle a dit à mon père, va chercher le pasteur. Et le pasteur Albert Leblon est venu avec des anciens. Ils ont été au courant de la chose, ils se sont mis à prier ici, dans leur maison. Ils ont passé des heures à prier. Et puis... en fin de soirée, ils sont sortis et le frère a eu, Albert Leblon a eu cette parole. Demain, à 6h du matin, cette petite sera guérie. Il est parti. Elle m'a dit, à 5h50, j'ai changé de couleur. Et à 6h, j'étais complètement guéri. Gloire à Dieu. Alléluia. Et suite à ce témoignage, les parents, imaginez, ils avaient sauvé la perle de leurs yeux. La pupille, enfin, vous comprenez ce que je veux dire là. Mais ils ont découvert la grâce de Dieu. Et c'est vrai que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un homme, des chrétiens, une église, qui avait de la saveur. Qui avait de la saveur. Et je prie, mes frères et sœurs, afin que nous soyons de ces hommes et de ces femmes-là, qui est de la saveur. Qui est du sel, eh bien, en nous-mêmes. Nous avons été au bénéfice de témoignages mais qui nous ont sauvés. Mais nous aussi, nous voulons être de celles et ceux qui ont un témoignage qui est capable d'amener au salut eh bien, plusieurs hommes et femmes qui ont besoin eh bien, de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du sel en soi-même ? Vous savez que le sel a une vertu. C'est qu'il ne pourrit pas, justement. Vous pouvez conserver du sel longtemps. Il reste intact. On est allé, il y a quelques mois de cela, avec le groupe des aînés, encore, on en fait des choses avec les aînés. Hein, Maggie ? Hein, on est monté au sommet du quoi ? Tu te souviens pas ? Une montagne de sel. Ah, Aigues Mortes. Tu te souviens de cette fameuse journée? Voilà, Maggie, plus de 80 ans, veut monter. Voilà, mais c'était salé, hein. Voilà. Donc, on est monté là-haut, et le sel, eh bien, c'est ce qui ne passe pas. Et quand la parole de Dieu nous dit ceci, ayez du sel en vous-même, elle veut nous rappeler que nous sommes appelés à avoir une communion avec le Seigneur, mais nous avons besoin de veiller sur notre communion. Ailleurs dans l'Écriture, il nous est même parlé, eh bien, d'une alliance de sel. Il nous est dit dans le livre du Lévitique au chapitre 2, verset 13, si mes souvenirs sont bons, eh bien que les offrandes, les sacrifices devaient être salés. Tu n'oublieras pas de mettre du sel. Ça parlait d'avoir de la saveur, mais aussi de garder cette relation intacte. Il y a des choses qui sont passagères sur cette terre. Il y a des choses qui n'ont aucune valeur. Si vous avez un iPhone 12, c'est très bien. Mais je voudrais vous dire, il est déjà dépassé. L'iPhone 14 est là. Voilà. Et bientôt, il y aura l'iPhone 15 et 16, etc. Obsolescence, voyez. Il y a des choses qui sont dépassées. Mais il y a des choses qui comptent. Et je crois hier vous avoir mis sur le groupe WhatsApp, eh bien de l'Église, ce texte de la parole de Dieu où il nous est parlé d'un certain Épaphras qui veillait dans la prière pour l'Église, afin que l'Église ait ce sel en elle-même. Il dira ceci dans Colossiens chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui dira « Épaphras qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Que nous ne soyons pas, mes frères et sœurs, entraînés par les choses, excusez-moi du terme, bête de la vie, les choses passagères. Vous savez que il y a des chrétiens authentiques qui ont perdu toute autorité, qui ont perdu ce sel. Pourtant, ils pouvaient dire la vérité, mais c'était sans effet. La Bible nous parle, dans le livre de la Genèse, au chapitre 19 et au verset 14, d'un certain monsieur qui s'appelait Lot, qui a prévenu sa famille que le jugement allait frapper la ville de Sodome. Et la Bible nous dit que ses gendres, eh bien, connaissant Lot, leur beau-père, ont cru qu'il plaisantait. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Pourquoi ils ne l'ont pas pris au sérieux? Parce que son témoignage n'avait pas de crédit. Il y avait tellement de compromis dans sa vie. Le sel était sans saveur. Il y avait quelque chose, eh bien, qui n'allait pas dans son comportement. Et personnellement, je n'aurais pas aimé avoir Lot comme père. Un homme qui connaît les choses de Dieu, qui connaît la vérité, mais il y a tellement de compromis dans sa vie qu'on a l'impression que tout ça, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Et il a perdu sa famille, il a perdu son témoignage. On ne va pas rentrer dans tous les détails, eh bien, de la vie de Lot. Et je me suis dit, tandis qu'on est là sous le regard du Seigneur, mais comment, Seigneur, est-ce qu'on peut faire pour... Je nous pose la question. Si on avait perdu ce sel, cette saveur, cette autorité, comment on fait pour retrouver le sel, Seigneur? Le goût des choses primordiales, le goût de ta sainteté, le goût de ta présence, de l'importance, eh bien, de ton salut, comment on fait? Alors, Maggie, on retourne à Aiguemorte. Et vous savez ce qu'ils font à Aiguemorte? Ils font des bassins de rétention. L'eau de mer est, je ne me souviens plus, je crois qu'il y a 50 cm, peut-être moins. Et puis, le soleil frappe, et par évaporation, eh bien, l'eau s'en va, et il ne reste que le sel. Et même, il y a la fleur de sel. Et il y a une sœur, tandis qu'on visitait, qui cherchait les fleurs. Voilà. Et alors là, on a fait comme vous, là. On a un peu ri, voilà. Voilà. Mais le sel, j'ai noté, se conserve longtemps, il peut être conservé longtemps, il ne pourrit pas. Mais lorsqu'il est mélangé, il est perdu. Il est perdu. Quand on le mélange, il est perdu. Voilà. Et la seule manière de le retrouver, c'est d'évaporer l'eau. Dans la Bible, la mer, c'est symbolique hein, ce que je dis. Hein. Dans la Bible, la mer, ça parle du monde sans Dieu, agité. Lot, un homme agité par des passions diverses, de réussite sociale, d'avancement, de boulot, etc. Le sel, il ne l'avait plus. Et peut-être qu'un frère, une sœur au milieu de nous est en train de passer par une épreuve, un désert, pour que toute cette eau du monde, tout ce qui est entré dans ton cœur, ça s'évapore. Pour qu'il reste les choses fondamentales, le sel. Pour que tu redeviennes le sel de la terre. En préparant ces moments, je me suis souvenu de Moïse, cet homme de Dieu qui est resté 40 ans dans le désert avant de prêcher le salut à Israël en Égypte et d'être l'homme de Dieu que l'on connaît. À la fin de ces 40 ans de désert, il dira « Mais qui suis-je ?» Il pouvait se targuer d'être un Égyptien, un prince d'Égypte, un Hébreu de la race d'Abraham. Mais à la fin de ses 40 ans, il dit « Qui suis-je ? Mais moi, je suis personne, je suis rien. » Et Dieu lui dit « Oui, mais je suis avec toi. » Et il lui révèle son nom. « Je suis celui qui est, alléluia, celui qui dure éternellement. » Cesse de placer ta confiance dans une généalogie, dans la puissance des hommes, dans la sagesse des hommes. Mais place ma confiance en moi. Je suis le Dieu qui ne change point. Le Dieu de miséricorde, le Dieu qui veut sauver et je veux me servir de toi. Maintenant, tu es allé au bout de ta vie, il ne reste que ce sel-là. Mais c'est grâce à ça, c'est grâce à cette conscience eh bien, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de ces choses essentielles qui sont éternelles et qui ne passent pas, que tu vas devenir un homme de Dieu qui va apporter le salut. Alléluia. Amen. Et je dis merci Seigneur pour parfois les temps de désert qui font comme de l'évaporation dans notre vie. Ce qui n'a pas de valeur, ça s'en va comme une nuée. Ça s'échappe. Merci Seigneur, parce qu'il reste ce qui est essentiel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est dans ce sens-là que, eh bien, je dis que, excusez-moi du terme un peu trivial, que nous sommes, eh bien, des salières. Alléluia. Est-ce que vous avez du sel en vous-même ? Parce que le sel, et c'est mon troisième point, j'ai noté, la mission du sel, avoir du sel en soi-même, et le ciel en action, eh bien, Élisée va répondre eh bien, ce sel à la source des eaux de Jéricho. Le but, c'est que le sel soit au contact eh bien des situations où la saveur doit être retrouvée, où le salut doit être rencontré. Vous avez remarqué que Élisée, je l'ai noté à plusieurs reprises, va se rendre à la source des eaux. À la source des eaux. L'évangile, dans le chapitre 7 de l'évangile selon Marc, nous dit ceci, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les jalousies, tout cela. Et il dira, le Seigneur, ce qui entre comme aliment, que tu manges kasher, que tu manges halal, c'est pas ça qui compte. Parce que ça rentre dans ton ventre, ça va dans les lieux secrets. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Hein. Voilà. Et basta. Par contre, ce qui souille d'un cœur de ce qui souille un homme, c'est pas ce qui rentre en lui. Ce qui souille un homme, c'est ce qui sort de lui. Parce que c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Je l'ai dit, etc., etc. Le péché, la nature pécheresse de l'homme. Et c'est là où on a besoin eh bien d'être au contact. Ce qui touche dans la prédication de Jésus, ce qui doit nous toucher dans la prédication de l'Évangile, ce n'est pas une prédication qui soigne les apparences pour nous donner, j'allais dire, une espèce de reconnaissance. « Ah, je suis un bon petit chrétien. » Non, ce n'est pas ça. Elle nous touche en plein cœur, alléluia. Oui ou non? Elle nous traverse de part en part. Parce que je voudrais vous dire ceci, c'est que le sel a un rôle purificateur. Un rôle purificateur. J'ai fait de la chimie et de la biologie, pardon, et on utilisait certains substrats pour développer des bactéries sur les boîtes à pétri, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Et on savait qu'il y avait des substrats sur lesquels rien ne pouvait se développer. Et notamment quand vous aviez du chlorure de sodium, NaCl. Vous vous souvenez, il y a des chimistes là ? Chlorure de sodium. Eh bien, c'est quoi ? C'est du sel. Quand vous mettez du sel, la prochaine fois, vous direz, passe-moi du chlorure de sodium. Dans les dîners, ça fait son effet, hein, Jean-Noël ? Voilà, passe-moi du chlorure de sodium. Ces éléments chimiques. Alors, qu'est-ce que je vous ai fait rire, et puis voilà. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était ? Ah oui, merci. Ah voilà. On sent qu'il y a du vécu, Lydie. Hein, voilà, c'était des courses. Hein, voilà. Les bactéries ne poussent pas. Le sel a un rôle purificateur. Voyez. Et le rôle de Jésus et des enfants de Dieu est d'amener le cœur des hommes à la repentance. Le message de l'Évangile, c'est un message qui prend à rebrousse-poil notre société. Quand on dit que telle ou telle pratique, c'est un péché devant Dieu, quand on dit que vivre hors mariage, c'est une situation de péché devant Dieu, lorsque l'on dit des attirances pour un sexe, le même sexe, eh bien, c'est un péché devant Dieu. Sommes-là là, en train de dire, nous jugeons les personnes, le Seigneur aime tous les hommes, tous les pécheurs. Mais le Seigneur, parce qu'il veut nous sauver, veut nous laver, nous purifier de nos péchés. Alléluia. Je crains parfois que nous ayons cette tentation, afin de devenir un peu fréquentable dans notre monde, de devenir un peu trop social compatible, c'est-à-dire de chercher à tout prix une compatibilité avec l'esprit de ce monde. Mais je voudrais vous dire, c'est impossible. Il n'y a pas de compatibilité entre l'esprit de ce monde et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, il est saint. L'esprit de ce monde, il est souillé. L'esprit de Dieu nous parle des choses éternelles, des choses qui durent à jamais. L'esprit de ce monde, c'est à courte vue. C'est les choses temporaires, les choses qui sont dans la mode. Mais dans la mode des temps, et peut-être quelqu'un, et nous-mêmes tous ensemble, avons-nous besoin de dire, Seigneur, je veux revenir à ce qui est spirituel, à ce qui a vraiment du sens. Seigneur, nous avons besoin, non pas de verser dans de l'émotion, même si on a besoin d'exprimer nos émotions, on peut pleurer devant le Seigneur, on peut se réjouir devant Dieu, mais on sait qu'on ne va pas pleurer sans cesse ou rire sans cesse, ça serait un petit peu... voilà. Mais ce qui est spirituel, ça demeure. Oui ou non ? Ce qui est spirituel, que je sois triste ou pas triste, que je sois au travail, que je sois à la maison, que je sois... mais Seigneur, tu es en moi. Alléluia ! Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un, est-ce que Jésus habite en toi ? Est-ce qu'il a fait son œuvre dans ton cœur ? As-tu besoin, eh bien, de venir à lui parce que Jésus t'appelle ? Il y a un exemple extraordinaire que je trouve dans la Bible. Moi, j'aime bien la personne de Lévi, celui qui est devenu Matthieu dans la Bible. C'était un péager. Alors, il était dans son temps. Lui, ce qu'il cherchait, c'était le bénéfice. Collabo avec les Romains, je perçois une petite prime. Il était dans son époque. Et puis Jésus passe dans son époque, parce que même si l'Esprit de Dieu est saint, mais le Seigneur passe dans notre époque. Alléluia. Il aime les hommes de ce temps, oui ou non ? Amen. Mais quand même, il lui dit, viens et suis-moi. Ça veut dire, si tu restes là, tu meurs. Si tu me suis, tu as la vie éternelle. C'est du sel, ça. Ça l'a peut-être irrité. Vous savez, quand on met du sel sur une plaie, ça pique, hein. Et de dire, mais j'ai besoin de changer de vie. Je voudrais te dire, les chants qu'on a chantés, que le groupe de louanges nous a fait chanter, la source de tout ça, même si on s'est réjoui, même si on a été touché dans notre cœur, mais la source de cela, c'est en Christ. Vous enlevez Jésus, vous enlevez la parole de Dieu, il n'y a plus rien. Tout prend sa source dans la personne de Jésus. Alléluia. Et je voudrais te dire ce soir, ce matin, eh bien, accepte l'appel que le Seigneur veut faire dans ta vie. Il va à la source de ton cœur, il veut changer ton cœur, il veut purifier. La base de l'œuvre de Christ, c'est la purification de nos péchés. Et le Seigneur a dit ceci, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Pas vrai, Manu? T'es au faux, hein? Alléluia, hein? Mettez-la, alors gloire à Dieu. Quand on a entendu l'appel de Dieu, amen, qui nous a fait passer de la mort à la vie, et ce matin encore, le Seigneur veut appeler, te rendre pur pour devenir des enfants de Dieu. On ne devient pas des enfants de Dieu parce qu'on chante des cantiques, mais c'est parce qu'on chante des cantiques qu'on est des enfants de Dieu. On devient des enfants de Dieu parce qu'on a été lavé de ses péchés, purifié, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Je vais terminer, je termine. Mais je vous invite à continuer toute cette réflexion à la maison, en priant le Seigneur, en disant « Seigneur, je veux devenir le sel de la terre ». Je termine en disant le salaire du sel. Alors bon, excusez-moi pour la répétition, mais au moins vous comprenez. Le salaire, ça vient du mot « sel », je l'ai dit, une ration de sel que l'on donnait aux soldats, c'était leur salaire. À de nombreuses reprises, il nous est parlé de salaire dans 2 Chroniques au chapitre 5 et au verset 17, il nous est dit qu'il y aura un salaire pour tes œuvres. Tiens, ça veut dire que celui qui est le sel de la terre doit s'attendre dans la mission que le Seigneur lui donne, avoir un résultat béni. Élisée a jeté du sel. Peut-être tu dois jeter du sel dans ta famille, dans le cœur de tes enfants, pour avoir la bénédiction. Et la bénédiction, c'est qu'ils soient sauvés, qu'ils aient la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Il y aura un salaire pour tes œuvres. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4 et au verset 35, vous remarquez que ce salaire est toujours associé ici, eh bien, aux résultats bénis d'hommes et de femmes qui sont sauvés. Puisqu'il nous est dit encore ici, ma nourriture, verset 34, c'est Jésus qui parle, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, mais voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les moissons qui déjà blanchissent pour la moisson, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Recevoir un fruit, un salaire, des fruits pour la vie éternelle. Ça ne vous intéresse pas, ça? Oui ou non? Quand nous avons eu nos enfants avec Anne, enfin, on les a eus les uns à la suite des autres, hein, comme tout le monde, mais je me suis dit, c'est super, Seigneur. Parce que, alors, la joie d'avoir un enfant, mais de dire, mais Seigneur, tu nous les confies pour qu'on soit pour toujours et jamais séparés dans le ciel de gloire. Alléluia. Amen. C'est un combat. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est un défi. Mais il y a les promesses qui sont là. Et je voudrais vraiment terminer là-dessus. Tout à l'heure, François nous a fait chanter un chant, le dernier, « Jésus est la source de ma joie », c'est ça? Celui qui... Comment? L'auteur de ma joie. Et celui qui change mes larmes. Voilà, en fleuve de vie. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est que les larmes ont cette particularité. Vous savez ce qu'elles ont, les larmes? Elles ont du sel. C'est salé, les larmes. C'est salé. Regardez ce qui nous est dit. Et je voudrais m'adresser à celui qui pleure, peut-être. Peut-être que tu te dis, jusqu'à quand mes larmes finiront? Parce que tu pleures pour la conversion, pour d'un être cher, d'un enfant, d'un parent, je ne sais pas, d'un conjoint, conjointe. Et voici ce qui est dans ces larmes, il y a du sel. Tu exprimes le désir de voir les promesses de Dieu se réaliser. Merci Seigneur s'il a un travail, merci Seigneur pour la santé, mais s'il part dans l'éternité avec le beau boulot qu'il a, avec la bonne santé qu'il a, il est en enfer pour l'éternité. Seigneur, c'est pas possible. Comme le sel nous parle de choses qui sont durables, que tu conserves une alliance avec toi. Seigneur, je veux de ça. Et regardez ce qui nous est dit dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31 et au verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Alléluia. Alors peut-être que tu pleures, peut-être que tu combats et que c'est compliqué, mais dans tes larmes, il y a du sel. Ça veut dire que ce qui est essentiel, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Cette alliance avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voulez qu'on prie le Seigneur afin qu'il nous remette du sel en nous-mêmes. Alléluia. Et qu'on ait de la saveur. Amen. Et il y a de la joie. Amen. Sous le regard du Seigneur. Amen. Parce qu'on a des promesses qui vont s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur quelques instants. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ton grand amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Seigneur, parce que tu es grand et puissant, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Seigneur, quand on te considère dans toutes tes œuvres, on est émerveillé, tu es majestueux. Et Seigneur, mon Dieu, dans ton plan d'amour, tu as accepté de venir jusqu'à nous pour vaincre Satan, pour vaincre le péché, nous pardonner. Et Seigneur, faire de nous sur cette terre le sel de la terre. Seigneur, vois combien notre pays de France, nos sociétés, Seigneur, de consommation, Seigneur, ont les yeux fixés sur ce qui passe, sur ce qui est obsolescent. Seigneur, nous voulons être à l'aube de cette année nouvelle, Seigneur, le sel de la terre, pousser notre génération, Seigneur, convaincre, Seigneur, celles et ceux que nous aimons, nos voisins, Seigneur, nos collègues de travail, à ce qui est essentiel et ce qui est durable, c'est-à-dire faire une alliance avec toi. Seigneur, je te prie particulièrement, Seigneur, pour ceux et celles, Seigneur, qui ont compris le combat, Seigneur, l'enjeu du combat, la vie éternelle. Alors, Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui pleurent, afin qu'ils ne se découragent pas. Parce que Seigneur, tu nous l'as affirmé, et Seigneur, dans ta parole, il y aura un salaire pour tes œuvres. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Seigneur, nous voulons garder ces paroles, mais Seigneur, nous voulons combattre également le bon combat. Seigneur, donne-nous à nous qui sommes tes enfants, Seigneur, de ne pas être légers. Seigneur, de ne pas ressembler à Lot. Seigneur, qui, malgré la connaissance qu'il avait des choses de Dieu, Seigneur, n'a pu, par manque d'autorité, par manque de sel en lui-même, Seigneur, amener sa propre famille, Seigneur, à la foi. Seigneur, voulons te demander, Seigneur, et peut-être, Seigneur, pardon si nous avons été légers, mais Seigneur, nous voulons revenir à l'essentiel, à la profondeur, alléluia, d'une relation et d'une communion qui ne manque pas de sel. Alléluia, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, peut-être quelqu'un est dans le silence de son cœur, a-t-il besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin d'avoir du sel. J'ai besoin que ma vie ait de la saveur. Que de ma vie ait de la puissance, de la vérité. Alléluia. Sous le regard de Jésus, c'est vous qui vous positionnez devant le Seigneur. Et si vous comprenez que votre vie, elle s'est mélangée à l'eau de ce monde, acceptez que le Seigneur fasse évaporer tout ça. Et peut-être un temps de désert. Un temps de désert qui permet que ce qui est charnel, ce qui est de ce monde, ça s'évapore. Pour qu'il reste le sel. Alléluia. Quelques secondes sous le regard du Seigneur. On n'est pas dans la culpabilisation, hein. On est devant le Seigneur qui veut nous faire vivre de belles choses et qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre. » Alléluia. Quelques secondes sous le regard de Jésus. Alléluia, Seigneur. Te rendons grâce. À toi la gloire, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.